Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Science Vagabonde, deuxième et dernière partie de notre entretien avec le célèbre jardinier, paysagiste et écrivain Gilles Clément. Après nous être promenés dans son jardin à l'ENS pour mieux comprendre son travail, revenons sur sa vision de l'écologie et son engagement.
Pour en venir toujours sur ce jardin et sur quelque chose qui n'est pas mineur justement dans ce jardin, c'est précisément les espèces animales auxquelles une place croissante a été ménagée en fait avec l'arrivée je crois en 2004 ou 2005 de ces célèbres moutons de Soé qui sont désormais un peu les mascottes de l'école. D'ailleurs, quand les gens entrent dans l'école, le premier truc qu'ils demandent à voir c'est les moutons et les hôtels à insectes aussi. Comment, lorsqu'on pense un jardin, on pense la présence animale dans ce jardin qui doit être un facteur de mouvement énorme, justement?
Alors, il n'y a pas de nécessité de penser ça comme ça. Si on est d'accord pour que la diversité animale ou végétale vive avec nous, la nature vit avec nous, la nature, elle est d'accord pour vivre avec nous. Là, il y a des lézards, hein, ici.
Oui, on les a vus tout à l'heure.
Voilà, il y a des hérissons. On nous en parle. Il y a sans doute des renards. Enfin bon, c'est pas d'inquiétude. Je viens de voir une pie. Enfin, il y a du monde. C'est pas totalement révélateur de ce qu'a dû être la richesse autrefois à Lyon. Elle a disparu partiellement dans le monde entier. Il y a des oiseaux qui partent, qui disparaissent en quantité, mais aussi en nombre de variétés. Et ça vient de la pollution générale, ça vient pas du tout uniquement du réchauffement climatique, ça vient plutôt de la chimie, je dirais.
On se demandait si, après ces 10 ans d'évolution, donc que vous n'aviez pas observé encore, vous avez eu des surprises, que ce soit dans ce jardin ou dans un autre jardin que vous avez construit.
Oui, il y a toujours des surprises qui viennent beaucoup de la rapidité de croissance de certaines espèces par rapport à d'autres qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas imaginées. Parce que même si on les connaît bien, à force de les utiliser, c'est en fait un comportement individuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux chênes comme ça, trois autres, enfin peu importe, mais qui vont avoir un comportement individuel différent, et à certains endroits, l'un d'eux ou plusieurs vont avoir transformé l'espace d'une manière très forte et l'autre pas du tout. Et donc c'est là où on doit intervenir en tant que concepteur de l'espace. Là, c'est le travail plus du paysagiste que celui du jardinier qui va dire non, ça il vaudrait mieux peut-être enlever une branche, tailler, émonder, soulever, bref, faire quelque chose, ou carrément supprimer, ou là on laisse et on touche à rien, quoi. Les surprises, elles sont constantes. Avec les végétaux comme ça, les arbres, si on revient tous les 5 ou tous les 10 ans, on voit vraiment les changements. Mais si on veut, avec des plantes herbacées, on les voit quasiment tous les jours, hein, changements. Parce que ce qu'on porte, ça va très vite. Oui,
oui, ça doit être des cycles de vie beaucoup plus courts que ceux des arbres.
Oui, bien sûr.
Il faudrait juste penser à se pencher pour le voir.
Oui, bien sûr, et puis reconnaître les espèces. Il dit, tiens, bon, elle se comporte comme ça cette année. Ah, mais l'année dernière, elle ne fleurissait pas, elle n'était pas là. Mais si, elle était là, mais bon, etc. Quoi. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas interprété, qu'on n'a pas compris. Le jardin est une source de surprise permanente. L'exposition sur mon travail qui est itinérante, qui circule, s'appelle « Toujours la vie invente ». Et puis, il ne s'arrête pas toute la nuit, quoi.
Donc oui, on parlait des surprises dans les jardins et du fait de prévoir un peu leur évolution. J'aimerais bien qu'on enchaîne un peu sur la question de comment on intègre le jardin dans un tissu urbain. Donc ici, on est quand même en pleine ville. Et je me demandais si par exemple, vous envisagiez parfois d'intégrer des plantes, par exemple des plantes qui produisent des produits comestibles ou ce genre de choses qui font que il va y avoir une interaction plus directe que la simple observation en fait des plantes, des gens avec avec le jardin.
Alors ça arrive de plus en plus souvent, mais au moment où on a conçu ce jardin avec Guillaume Geoffroy Tchaume, hélas décédé très rapidement après la conception de cet endroit, on en avait parlé ensemble et on s'était dit on va plus aborder la question qui sont celles qu'on aborde d'une manière un peu rapide à travers le temps, la forme, etc. Plutôt que l'aspect vivrier qui pourtant est initial dans l'histoire des jardins. Les premiers jardins sont des enclos où on met quelque chose qu'on protège et qui est nourricier. Et qu'autrefois on allait chercher là où ça se trouvait quand on était des nomades. C'est la première étape du sédentarisation qui transforme le paysage. Pour moi, c'est le début de l'Anthropocène. C'est là. C'est donc il y a très longtemps. Et oui, là, il y a une sorte d'urgence, là, c'est vital. On a besoin de ça pour vivre, ces plantes. Mais il y a eu un dévoiement du jardin en tant qu'enclos protégeant le meilleur vers quelque chose d'ornemental, quelque chose qui favorise la méditation, le repos, le calme, le jeu, etc. Et ici, ça va un peu au-delà dans le sens où il y a le travail à l'intérieur du jardin, la possibilité pour les étudiants de s'installer, etc. On n'avait donc pas imaginé un autre potager que celui qui pourrait être mis en place par les techniciens qui s'occupent du jardin pour eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on le refaisait, on intégrerait quelque chose là. Car c'est devenu une préoccupation qui est généralisée maintenant. Mais il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Où on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on mange, quels sont les poisons qui sont dedans.
Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu les jardins étudiants qui se sont développés près des résidences.
Et c'est très bien. Donc oui, on le ferait, je crois, on le ferait. Mais on n'était pas encore à ce niveau-là d'urgence et de réflexion. Oui,
oui, et en plus, le comestible peut être vecteur de... Par exemple, on peut décider de créer des plus petites parcelles en ville pour en mettant des comestibles afin que les gens acceptent, par exemple, ces parcelles ou alors les entretiennent eux-mêmes. C'est ce qu'on voit.
Alors c'est surtout ça. C'est surtout que c'est le mieux s'ils sont impliqués dans l'entretien, les habitants. Là, ça marche parce qu'ils ne laisseront pas dégrader. Ils ne dégraderont pas eux-mêmes et ils ne laisseront pas dégrader par d'autres. Il y a une surveillance qui se fait et il y a une pédagogie qui se fait aussi. Les messages passent entre des personnes qui n'étaient pratiquement souvent jamais faites pour se rencontrer. Il y a un aspect sociétal très fort. C'est quelque chose qui réunit. Le jardin, il y a un aspect consensuel sur la question, sur le mot et sur l'usage. Et en plus, le fait de jardiner, c'est-à-dire le... Le jardin, c'est un lieu dans lequel on peut s'installer pour se reposer, pour méditer ou travailler, mais d'accord, mais quand on met les mains dans la terre, là on participe, on est dans le jardinage et on est dans ce que j'appelle un territoire mental d'espérance, c'est-à-dire on fait quelque chose pour demain.
Oui.
On n'est pas tiré vers la nostalgie, vers le passé, vers l'hier, on met une semence, c'est pour demain. Et ça a une vertu thérapeutique qu'on ne comprend pas trop, on peut deviner la force qu'elle peut avoir, mais dans certains cas, c'est utilisé par des soignants, pour des gens en difficulté, réellement.
Et c'est vrai que peut-être que le jardin réussit peut-être à soigner autant l'individu que la collectivité d'une certaine façon.
C'est tout à fait certain. Ça soigne vraiment, enfin ça équilibre la communauté et ça soigne l'individu. C'est quelque chose de complètement indispensable. Maintenant, de plus en plus de gens vivent dans les villes. Et on en arrive à 70-80% des gens sur la planète, hein, qui étaient autrefois dispersés sur le territoire rural et qui aujourd'hui sont dans un territoire urbain extrêmement bétonné et qui ont de plus en plus d'aspirations à trouver ça. Parce que ça leur manque, même s'ils n'ont pas été forcément quand ils étaient élevés, quand ils étaient petits, ça leur manque, c'est quasiment un comportement spontané, presque animal.
Oui, et pour, donc, pour reparler un peu de ce, ouais, de ce manque qu'on a dans les villes, est-ce que vous êtes intéressé à des démarches comme le fait de végétaliser les toits ou de créer du jardin ailleurs que dans les endroits usuels dont on manque terriblement en ville?
Oui, les jardins sur les toits, je pense que si on calcule bien l'architecture avec des surcharges autorisées suffisamment fortes pour avoir une épaisseur de terre importante, et que, je ne sais pas, qu'on n'est pas non plus, qu'on ne met pas les gens en danger auprès des immeubles, parce qu'il peut y avoir des branches qui tombent, des arbres qui tombent d'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais il faut juste savoir qu'il y a ça, quoi. Bon. Il y a de plus en plus d'expériences qui se font là-dessus. Il y en a qui sont un peu comme ça, des sortes de gadgets, un peu ornementaux, un peu... On donne bonne conscience, on met du verre. Puis il y en a d'autres qui sont bien menés avec justement des produits des vivriers, des pétagers bien faits. Donc ça peut avoir du sens dans la mesure où on est de plus en plus en train d'imperméabiliser les sols. On perd la surface d'un département français tous les 7 ans en imperméabilisant. Je ne sais pas si en Europe, en France, hein, c'est complètement fou. On ne s'en rend pas compte, mais quand on calcule, c'est ça. Et c'est très, très impressionnant. Donc, il faut bien qu'on retrouve cette surface quelque part à un moment donné. Et les Chinois, qui ont compris ça depuis très longtemps, achètent des terres partout dans le monde pour compenser le manque qu'ils ont déjà chez eux.
Profitez des jardins d'enfance, des sourires qui inspirent confiance. Du haut de vos 10 ans, vos 3 pommes, l'avenir est un géant en bonhomme. Futur héros des grandes quêtes, et si la suite... Et si la suite était une fête?
Vous écoutez Science Vagabonde sur Transistor.
Petit prince d'aujourd'hui fête, les femmes de demain, les femmes de demain. Rebelles au bois d'aujourd'hui fête, les hommes de demain, les hommes de demain. C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le temps, la femme, le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie, on attend que ça passe ou que ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veillez croire en ce qui nous lie. À nos jeunes dames en prose qui éclatent comme des roses, quand Marianne épouse l'espoir. À la noblesse des causes, aux métamorphoses, à ce qui nous émeut, aux héros d'un soir, à ce qui nous émeut, nos victoires.
Ben, je me demandais en fait comment vous envisagiez l'interaction entre vous, les mouvements de jardinage, entre guillemets, que vous avez initié, et d'autres mouvements qu'on voit aujourd'hui fleurir, comme la permaculture ou encore l'agroécologie. Je me demandais comment vous envisagiez les interactions entre ce genre de méthode de jardinage et le jardin en mouvement, notamment.
Mais c'est dans la même logique. C'est on fait avec et pas contre, avec un souci d'une économie de la non-dépense, avec une possibilité de récolte sur des surfaces parfois très modestes et des rendements de bon niveau, sans perturber le milieu, sans détruire la diversité que l'on n'exploite pas, mais qui est regardée comme une série d'auxiliaires du jardinier. Donc je suis complètement en phase avec tout ça. Moi, je pratique un petit peu de permaculture sur une petite partie du potager depuis déjà longtemps, parce que c'est des choses qu'on trouve qui ont leur efficacité, notamment en ce qui concerne des plantes qui sont gourmandes, qui ont besoin de l'humidité en permanence, des choses que c'est les techniques de jardinage très au point, mais qu'on connaissait. Quand moi j'étais étudiant à l'école d'horticulture à Versailles, il y avait encore des couches comme ça, des paillages et des choses qui ont disparu ensuite, parce que la chimie a pris le dessus et on a complètement oublié ça, alors qu'on les connaissait,
oui,
ces techniques.
Oui, et donc ça, en fait, ça pose un peu la question, parce que dans vos textes, vous faites souvent un parallèle entre aménager un terrain en tant qu'humain et faire perdre de la biodiversité. Et finalement, avec la permaculture, en fait, on arrive à augmenter cette biodiversité et on arrive à apprendre à l'apprivoiser en quelque sorte.
Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on intervient qu'on détruit. On n'est pas obligé. Si on détruit, c'est parce qu'on est maladroit, qu'on ne sait pas faire autrement ou qu'on ne veut pas pour des raisons économiques. Hein, c'est le monopole Monsanto-Bayer ou quelque chose de ce genre. Enfin, c'est plus que ça, c'est assez sordide, hein, c'est vraiment très inquiétant. Mais sinon, on peut tout à fait faire autrement, oui, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on est là, nous, humains intervenants, qu'on détruit. On n'est pas obligé de détruire. Oui.
Et c'est finalement peut-être là tout le sens de cette idée de jardin planétaire que vous avez développée. Si finalement l'enclos dans lequel nous sommes, c'est la planète, chacun d'entre nous est jardinier et il s'agit d'en prendre conscience et de s'adonner à cet acte en conscience.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit ça, je propose ça. Effectivement, ça veut dire à ce moment-là, tous les passagers de la Terre sont des jardiniers. Ils sont bons ou ils sont pas bons, mais quelquefois ils sont même pas conscients de ça. Peu importe leur niveau de conscience, ils ont une action sur le terrain. Mais quand ce niveau de conscience apparaît, là ça perturbe énormément le comportement, enfin ça change le comportement. Or il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qui se passe malgré tout, parce que je ne dis pas qu'on a bien compris ce que pouvait être la finitude spatiale, le fait que nous sommes dans l'eau, que l'eau que nous buvons a déjà été bue par des plantes, des animaux et des humains, etc. Tout le monde ne l'a pas réalisé. Il y a un peu de recyclage permanent. Et si le milieu dans lequel nous vivons se disqualifie, nous perdons la possibilité de vivre. C'est tout à fait évident. Mais petit à petit, ça rentre dans les consciences. Et à ce moment-là, peu importe s'il s'agit d'un directeur de je sais pas quoi, d'un sportif, qui ne sait pas planter un chou, mais qui lui aura une action sur le jardin planétaire d'une façon ou d'une autre, s'il ne détruit pas dans son action, il est un bon jardinier.
Alors on a atteint la sphère un petit peu politique à plusieurs points par petits à-coups pendant cet entretien. On y arrive là avec ces enjeux quand même assez forts. Vous citez Bayer et Monsanto d'un contrôle marchand croissant et galopant sur le monde, donc sur le vivant. Face à ça, vous vous êtes très vite engagé. À un moment, vous avez aussi choisi de vous désengager de vos contrats avec l'État, finalement de vous désengager de la sphère politique d'une certaine façon. Est-ce que la lutte pour la vie, s'il faut l'appeler comme ça, elle se fait dans l'action positive ou finalement dans une forme de retrait, de tentative de construction parallèle ?
Alors, c'était pas exactement ça. Moi, je ne voulais pas soutenir d'une manière ou d'une autre les propos qui étaient tenu par celui qui, à l'époque, venait d'être président, Sarkozy, quand on connaissait les idées et le comportement quand il était ministre auparavant. Donc j'étais complètement stupéfait de voir qu'on avait élu celui-là, qui est un suppôt de la destruction. Enfin, on est revenu à ça. On fait à peu près la même chose aujourd'hui avec Macron, c'est la même chose. Hein. C'est juste plus élégant, c'est bien comme il faut, c'est pas du tout vulgaire, mais c'est catastrophique. Parce que c'est quand même uniquement cette vision-là. Il ne supporte pas un autre modèle économique. Hein, on ne l'accepte pas. Je ne me suis pas retiré de la politique. J'ai justement fait de la politique en faisant ça, sans le vouloir. Hein. J'ai juste averti mes clients en mettant sur mon site le fait que je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus répondre aux commandes venant de ce gouvernement. Mais j'ai continué à travailler avec d'autres commanditaires qui avaient d'autres idées, que je trouvais moins dangereuses. Là, on était dans la destruction du jardin planétaire. Bon, on y est revenu à grands pas. Mais je ne voulais pas soutenir ça, c'est tout. Simplement, je n'avais pas réalisé, parce que je suis pas, j'ai jamais été un habitué d'Internet et de sa puissance, du fait que ça ferait une espèce de ça circulerait comme ça à toute vitesse. Même demander des articles pour Libération, je ne sais plus quoi, Télérama, enfin bon. Mais c'est par le net, en fait. Et moi, j'ai juste mis ça sur mon site. À l'intention de mes clients. Voilà, c'est tout.
Là où ma question voulait aboutir, c'est par exemple, vous évoquiez Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure. La voie de sortie de l'impasse dans laquelle on se dirige un peu à toute vitesse aujourd'hui, c'est peut-être de construire des chemins de traverse comme ceux qui sont construits là-bas et justement, finalement, de cultiver notre jardin, pour revenir à la formule canonique.
Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a une espèce de surdité de la part de ce gouvernement qui ne veut pas écouter quelque chose qui est différent de ce qu'il prône, alors qu'il y a la démonstration de ce que cet autre discours a de l'intérêt. Il y a déjà des résultats depuis une dizaine d'années, ou un peu plus, avec une espèce de polyartisanat, une exploitation du sol qui est plutôt protégeant la vie en général, avec un maintien de la diversité complexe non exploitée, avec une économie circulaire et de la non-dépense. Enfin, je ne sais pas, on est dans un autre modèle qui est plutôt pour moi celui du futur, celui vers lequel on devra presque obligatoirement se diriger, quelle que soit la technologie et sa puissance. Or, là, on ferme les yeux. Donc, je trouve que ce que je dis parfois, on attaque même, on détruit. On met 1800.
C'est
1800 gendarmes armés contre ceux de 120 pauvres habitants, quoi qu'ils ne sont pas dangereux. Donc, je trouve ça monstrueux, injuste et dangereux, fou, quoi, en fait. Et je dis que ces dirigeants, nos dirigeants actuels, sont des retardateurs, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent de laisser voir et apprécier une expérience qui a de l'intérêt pour demain.
Vous publiez il y a quelques jours ou semaines Le Grand Bal chez Actes Sud. C'est en quelque sorte une dystopie dans un monde où justement le vivant est breveté et fabriqué finalement par une espèce de grand consortium, le fameux Grand Bal, jusqu'à ce qu'une musaraigne s'échappe, si j'ai bien suivi. Alors, j'ai pas lu le livre, mais il semblerait que ce soit un livre à la fois très ironique et assez peut-être glaçant par le portrait que ça entend donner des enjeux qui sont liés au vivant aujourd'hui. Vous peignez donc une vision qu'on peut considérer comme assez sombre, mais vous restez optimiste. Le futur, aujourd'hui, il existe. Nos dirigeants ne sont que des retardateurs de ce futur.
Oui, c'est ça. Je pense que si je reste optimiste, c'est parce que je pense qu'il y a les prises de conscience dont on parlait tout à l'heure, elles existent et elles se multiplient un petit peu. Si j'ai voulu écrire ce livre-là, qui est sous une forme d'un roman, c'est pour accentuer sur la nécessité de prendre conscience de choses dont on n'a pas toujours aperçu. Il n'y a pas eu de médiatisation, il y a beaucoup de choses qui sont un peu sous le tapis. J'ai voulu les mettre à la lumière, mais dans un futur, c'est-à-dire comment ces choses que l'on, je ne sais pas, comme les semences de Svalbard, au Spitzberg, soi-disant pour conserver la diversité, qui en fait est un placement, c'est juste une histoire de banque, comment finalement avec le réchauffement climatique ça disparaît, puisqu'elles n'ont plus leur pouvoir germinatif dans X temps, c'est un autre krach boursier, comme le premier qui a eu lieu, qui était celui de la tulipe au XVIIe siècle. Donc je parle de choses comme ça, je m'appuie sur des choses qui existent, qui ont été proposées, pour en faire caricaturellement quelque chose dans le futur qui ne marche plus, quoi, en fait. Mais avec aussi une prise de conscience qui vient de quelques-uns des personnages, ils sont assez pittoresques, caricaturaux, et qui permet de dévoiler certaines choses, de dire non, là on est dans le paysage du mensonge, etc., quoi.
Et on avait une dernière question à vous poser en s'appuyant sur ce petit abécédaire que vous avez publié il y a quelques temps. Je vais en lire deux définitions. Désobéissance, condition d'accès à l'autonomie de pensée, parfois aussi conséquence de l'accès à une autonomie de pensée. Celui qui désobéit se met en obligation de penser. Et puis résistance, désobéissance ouverte, destinée à l'émergence du projet politique idéal. Et notre question finalement, Gilles Clément, est-ce que vous êtes désobéissant, est-ce que vous êtes résistant dans votre démarche?
Alors oui, sans doute. Désobéissant, oui, parce que j'ai été amené à le faire avec beaucoup de prudence, quasi de silence, quand j'étais adolescent, me disant non, je n'écoute plus les adultes, je ne veux plus les écouter, parce qu'ils m'ont dit trop de bêtises, ils m'ont dit trop de choses qui sont contraires à ce que moi je vois. Si on me dit, on était en Algérie, les Arabes sont des monstres ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je me sentais protégé par eux. Donc, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Donc, j'ai commencé à désobéir. Bon. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire que à partir du moment où on cesse d'être emprisonné par un modèle culturel cloisonné, complètement étroit, on est obligé de se mettre en condition de réfléchir et de construire une autre vision du monde, la plus élargie possible. Et quand j'ai commencé, moi, à voyager beaucoup, là, c'était un voyage que, cette année, passé en Algérie, parce que mon père avait trouvé un travail là-bas et qu'on est revenu, etc. Mais dans d'autres voyages, j'étais professionnel ou pas, j'en ai fait beaucoup. Et que chaque fois, en revenant, je me disais, ben oui, d'accord, je sais mieux où moi j'habite parce que j'ai un point de comparaison. Et à ce moment-là, ça relativise énormément tout ce que nous croyons être des vérités. Et donc, quand on nous assène des soi-disant vérités, on se dit, faut-il vraiment y croire? C'est pas sûr du tout. Ailleurs, ces termes-là, ils veulent pas dire la même chose. Les gens ne voient pas la même chose. Et donc, ça nous met en position pas systématique de la désobéissance, mais possiblement, oui. Et avec une certaine liberté d'esprit que j'appelle l'accès à l'autonomie de pensée, qui permet d'avoir une autonomie d'action.
Ouais, merci beaucoup pour cette interview qui était vraiment très intéressante.
Merci.
Merci pour l'invitation.
La 6e édition du Jardin en mouvement par Gilles Clément est éditée par Sens et Tonka, de même que son abécédaire. Son livre Le Grand Bal vient de paraître chez Actes Sud. Vous trouverez une collection de références pour prolonger le jardinage sur notre site www.transistor.fr. C'était Science Vagabonde sur Transistor pour un entretien proposé par Alissa Lasmar et Rémi Cerda. Prise de son et montage par Rémi Cerda. Sur les conseils de notre invité, vous avez également entendu un extrait des Hommes de demain de Cyril Mokayesh.